Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver avec RFI, le journal Le Monde, pour une nouvelle émission d'international. 800 millions de personnes ne mangent toujours pas à leur faim dans le monde. Les pays les plus riches se sont donnés comme mission d'être au chevet des pays les plus pauvres grâce à l'aide au développement. Mais est-ce vraiment le cas? Cette aide, qui sert-elle vraiment? Ceux qui en ont le plus besoin ou les intérêts des pays qui la pilotent? Rémy Rioux est notre invité. Il est directeur général de l'Agence française de développement, une banque en quelque sorte. Elle finance, prête, mais donne aussi de l'argent, particulièrement en Afrique, pour réaliser des projets en faveur du développement. Pour commencer cette émission, je vous propose ces paroles. Elles sont celles de femmes et d'hommes qui vivent dans le dénuement, la pauvreté. Un bref extrait du film « 7 milliards d'autres » de Yann Arthus-Bertrand.
J'ai dit que la plupart des enfants ne mangent pas. Ils ne mangent pas. Pourquoi? Parce que quand ils viennent à l'école, la première chose, c'est d'aller boire de l'eau. Parce que si vous n'avez rien à manger, mais vous devez mettre au moins quelque chose. Même quand il pleut, tu verras l'enfant, il court vite pour aller boire. Et ça signifie que l'enfant n'a pas mangé.
Sans l'agriculture, en tout cas, ne parlez pas du développement. Parce que le débit, c'est là-bas, sur le ventre. Le ventre qui n'a pas de quoi manger n'a point d'oreille.
Tu vois, dans les radios, à la télévision, lutter contre la pauvreté, lutter contre la pauvreté. Quelle lutte contre la pauvreté? Il y a des milliers de personnes qui vivent là et sont tous pauvres. Tu n'as pas aidé ces gens-là et tu dis que tu luttes contre la pauvreté. Ils ne luttent contre rien du tout. Oui.
Bonjour Rémy Rioux.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis 2 ans, vous dirigez l'Agence française de développement. Comment réagissez-vous à ces voix que l'on vient d'entendre et qui, d'une certaine façon, nous demandent des comptes, vous demandent des comptes sur l'aide apportée?
La politique de développement, elle s'est beaucoup transformée, elle est en plein renouvellement, elle embarque les sujets climatiques. On parle moins d'aide que d'entraide, parfois du lien entre nous
mais
et le reste du monde.
Mais là, on parle de gens qui ont faim.
Mais voilà, c'est pour ça que ces images sont si frappantes et si fortes. Il ne faut jamais oublier qu'à la fin, il y a des situations inacceptables, il y a un combat, il y a des gens très pauvres, des territoires relégués. Et il faut bien sûr concentrer les efforts sur ces territoires tout en généralisant, faisant des projets dans l'ensemble du monde.
Mais j'ai envie de vous demander votre ressenti, parce que vous êtes énarque, vous avez occupé des fonctions à la Cour des comptes, au Trésor, vous étiez à Bercy auprès de Pierre Moscovici, puis de Laurent Fabius au Quai d'Orsay, vous êtes un proche d'Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce qui, dans votre parcours de haut fonctionnaire, vous a amené à vous intéresser à ces problématiques? Et surtout, quelles sont les valeurs que vous portez dans la mission qui est la vôtre?
Personne n'est parfait, hein. Mais moi j'ai fait mon stage de l'ENA, comme le président d'ailleurs qui était au Nigeria. Moi j'étais juste à côté quelques années avant au Bénin, et bon, pour moi ça a été un éblouissement, une transformation, une conviction. Et depuis, j'alterne effectivement des fonctions plutôt au service de mon pays, et puis des fonctions internationales, au Trésor, au Quai d'Orsay,
les valeurs que vous portez
à l'AFD, c'est des valeurs d'humanité, c'est des valeurs de lien. Moi, je suis pour que notre pays reste ouvert et reste actif dans le monde. On a eu ce débat politique il y a un an à peine. Est-ce que le pays se referme ou est-ce que le pays s'ouvre, reste ouvert? Et s'il s'ouvre, à quel monde s'ouvre-t-il? Que fait-il dans le reste du monde? Quel avenir pour nos enfants? Donc l'Agence française de développement, c'est un peu ça aussi.
Alors avant de poursuivre cet entretien, ce rappel, qui est l'Agence française de développement avec ce focus de Nicolas Georges et Benoît Tricot.
C'est une vieille dame, elle a près de 80 ans et c'est le général de Gaulle qui en est à l'initiative. Chaque année, l'Agence française de développement finance et accompagne plus de 700 projets dans une centaine de pays à travers le monde. Elle a souvent fait de grandes promesses, plus ou moins tenues. Alors, est-elle à l'aube d'une nouvelle jeunesse? Des engagements ont été pris sous l'impulsion d'Emmanuel Macron. Seront-ils respectés? Ils concernent le climat, l'Afrique et l'égalité homme-femme. Des défis loin d'être tous gagnés jusqu'à présent, si l'on en croit le prochain rapport de l'OCDE sur les actions de l'Agence française de développement entre 2013 et 2018. En préambule, L'évaluation pointe les baisses successives de l'aide française sur cette période. Mais elle distribue aussi des bons points à l'AFD, comme la lutte contre les changements climatiques. À terme, vous, Rémy Rioux, vous souhaitez que 100% des projets financés par l'agence soient compatibles avec l'accord de Paris sur le climat. Autre action soulignée par le rapport, le développement de projets dans les régions touchées par le terrorisme, notamment au Sahel. Mais il y a aussi des faiblesses. L'égalité femmes-hommes ces 5 dernières années, c'était à peine 1/5 des projets, moitié moins que la moyenne des autres pays donateurs. Enfin, selon le rapport, la France n'aide pas assez en priorité les pays les plus pauvres. L'AFD devrait désormais concentrer 50% de ses dons sur ces pays, la plupart en Afrique, où les défis à relever sont nombreux, comme la pauvreté, l'éducation et la santé.
Rémy Rioux, Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayat du journal Le Monde nous ont rejoints.
Bonjour.
Sophie.
Oui, une première question, Rémy Rioux, qui fait référence à un événement qui vient de se produire. Il y avait le G7 au Canada, donc qui certes est le club des pays riches, des pays les plus industrialisés, et qui autrefois s'intéressait quand même au sort des plus pauvres. Il y a une époque, ils invitaient les présidents du NEPAD, du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Il y avait d'ailleurs le président Macky Sall qui était présent au Canada. On n'en a pas entendu parler. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les bisbilles entre pays riches fait qu'ils oublient désormais totalement le sort des plus pauvres?
Alors vous avez raison, il y a eu des grands sommets du G7. Hein. Je me souviens du sommet d'Évian, présidé par Jacques Chirac. Je me souviens du sommet de Gleneagles avec Tony Blair, du sommet de Deauville aussi, à l'époque, au moment des printemps arabes. Donc le G7, ça a toujours été un endroit où on parle de développement, où on parle des plus pauvres. On verra le communiqué, si communiqué il y a, du G7 canadien. On a la présidence du G7 l'année prochaine. Vous savez, c'est le président Macron à Biarritz. J'ai bien lu les dépêches.
Oui,
qui, et donc, je souhaiterais vraiment que le G7 reprenne, en plus dans un moment où la politique de développement est vraiment en redéfinition, en renouvellement, et où la France joue à nouveau un rôle de leader, 10 ans après le départ de Jacques Chirac. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a le G20. C'est-à-dire que le G7 peut garder une forme d'impulsion, d'initiative, mais ça se passe maintenant, le développement, aussi avec l'ensemble du monde, en particulier les pays émergents qui ont pris une place tellement grande dans la gouvernance internationale.
Et en fait, ce qu'on a vu là, c'est un coup très dur porté au multilatéralisme. Hein, en ce moment, c'est bien le problème. Oui. Est-ce que ce problème-là, il va déteindre sur l'aide au développement en général? Est-ce que les pays les plus pauvres doivent s'attendre à souffrir du fait que les pays les plus riches sont plutôt occupés à se faire la guerre?
Alors, les Américains restent le premier contributeur à l'aide publique au développement, de l'ordre de 30 milliards de dollars par an. Donc bien sûr, la nouvelle posture des autorités américaines, le discours sur l'autosuffisance des pays, tout ce qu'on entend en ce moment, les décisions qu'ils ont prises sur le financement du climat, du fonds vert, tout ça va avoir des conséquences. Après, le monde est, voilà, vous parliez du G7, le monde est devenu plus complexe. Moi, je dis qu'il est polylatéral, il n'est pas que bilatéral ou que multilatéral. Il y a des alliances d'un nouveau genre, et je pense en particulier, et s'agissant de la politique de développement, que l'Europe, dans ce nouveau contexte, a un rôle majeur à jouer. Elle est déjà la zone la plus généreuse du monde. Plus de la moitié de l'aide au développement vient d'Europe. On a un système d'institutions de développement européenne qui fonctionne de mieux en mieux. Nous, nos premiers partenaires sont allemands. On travaille avec les Suédois. Donc même en temps de Brexit, il y a quelque chose à jouer en européen où on n'a pas besoin des Américains, à dire vrai, puisqu'on le fait déjà.
Christophe.
Est-ce que vous observez la Chine?
Oui.
Qui continue à se présenter comme un pays en développement,
ouais,
prendre des responsabilités
bien sûr.
En termes d'aide au développement et pas seulement d'investissement, notamment
avait,
en Afrique.
On avait cette semaine, je préside un club de banque de développement qui s'appelle International Development Finance Club, IDFC. Pour la première fois, les Chinois, qui sont représentés par la plus grande banque du monde, qui s'appelle la Banque de Développement de la Chine, China Development Bank, 3500 milliards de taille de bilan, ils ont accepté d'entrer dans le comité de pilotage de ce club. Donc pour la première fois, jeudi dernier, on avait des représentants de la CDB qui sont venus nous expliquer leur vision des routes de la soie. Et il y a eu ce débat avec les Allemands, les Sud-Africains, les Brésiliens, tous ceux qui sont
sont autour de la table.
Les routes de la soie, c'est pas philanthropique. C'est destiné à, c'est quand même destiné à ramener du commerce ou à écouler le commerce chinois. Est-ce que
les Chinois font des financements
Les Chinois font des choses aussi qui sont pas intéressés.
Ils appellent pas ça développement. Ils ont une vision internationale. Ils y déploient des instruments financiers comme nous l'avons toujours fait. Maintenant, la question, c'est comment coopérer avec eux, à quelles conditions. Ce qu'a dit le président Macron, j'étais à ses côtés lors de son déplacement en janvier, en réponse au président Xi Jinping, qui l'interpellait sur ce point.
Alors, revenons à
la... On a créé des endroits. Ce club IDFC en est un. Vous savez aussi que les Chinois sont devenus observateurs au sein du club de Paris. Vous savez, cet endroit où on restructure la dette des pays en difficulté financière.
Qui sont en train d'aggraver, d'ailleurs.
Il y a le G20. Oui, mais... Voilà, ils sont dans la gouvernance. On a des endroits où on peut discuter avec eux.
Mais vous disiez, justement, ils n'appellent pas ça du développement. À quoi ça sert maintenant d'appeler les choses du développement si les Africains sont, eux, plutôt en demande de ce qu'on appelle du partenariat, plutôt que d'être bénéficiaire d'aide plus ou moins...
Oui, je pense que avec ce qui s'est passé, les objectifs de développement durable, cet élargissement de l'agenda international, je pense que la politique de développement doit garder évidemment une composante, c'est ce qu'on voyait à l'instant, en don, dans les pays, les territoires, au service des populations, dans les secteurs aussi, la santé, l'éducation, parfois l'agriculture, qui nécessitent de la générosité, de la solidarité, de la pure dépense, des purs transferts. Mais la vérité, c'est que la politique de développement, avec aussi la diversification de la situation des pays, la Chine a sorti des centaines de millions de gens de la pauvreté depuis 20 ans, depuis l'époque du tiers-monde. Donc cette politique, elle s'est complexifiée. Quand on parle de climat, les enjeux climatiques, vous le savez, ils sont plutôt aujourd'hui en termes d'atténuation dans les pays émergents que dans les pays les plus pauvres, où les enjeux sont d'abord des enjeux d'adaptation au changement climatique.
Donc, Rémi Rioux, pour ce qui concerne la France, oui. vous l'avez dit, donc le président français Emmanuel Macron s'est engagé à faire plus, mieux. Simplement, quand on voit les chiffres, donc il y a des objectifs. Hein. En gros, 2030, ouais. on devrait être comme l'Allemagne ou comme d'autres pays, hein, avec un engagement de 0,7% de notre revenu national en faveur du développement. Mais le budget de 2018, alors sans rentrer dans des choses très techniques, hein, c'est 100 millions d'euros de plus. C'est dérisoire.
Alors, peut-être... Le président Macron, il est élu comme le président Chirac en 2002 face à une proposition politique de fermeture du pays portée par un parti, un candidat qui s'appelle Le Pen. Donc je crois qu'il a besoin dans son projet politique de cet instrument qui s'appelle la politique de développement, qui est un instrument de lien positif avec le reste du monde, en particulier avec le Sud. Donc j'ai senti, moi, et je continue à sentir au premier pas, dans son premier discours, le jour où il prend le pouvoir, il parle de tenir les engagements de la France en matière de développement et de climat.
Pourquoi on se limite déjà et on estime que c'est ambitieux de vouloir atteindre 0,55%,
alors le gouvernement...
alors que le but est de 0,7%. Alors, ça, c'était les objectifs millénaires de l'ONU.
Je vous donne les ordres de grandeur. Aujourd'hui, l'aide publique au développement, c'est de l'ordre de 9 milliards d'euros par an, française. Quand on dit passer de 0,38 à 0,55% en 2022, c'est passé à 15. Donc c'est augmenté.
Oui,
c'est une politique publique qui va passer de 9 à 15 milliards d'euros de financement.
Oui, mais alors là, on est loin des chiffres, hein, parce que quand on voit les engagements de 2018...
Alors, je vous oppose les chiffres de l'Agence française de développement, puisque nous faisions 8 milliards d'euros de financement au moment de la COP21 en 2015. Nous avons fait 10 milliards et demi l'année dernière de financement. Donc on a déjà augmenté de plus de 2 milliards nos financements annuels. La technicité, mais je ne veux pas rentrer là-dedans pour nos téléspectateurs, c'est que ça ne fait de l'APD qu'au bout de quelques années. Mmh. Entre le moment où vous signez le contrat avec votre partenaire...
L'APD, c'est de l'aide publique
au développement. Et le moment où vous payez, il se passe parfois un petit peu de temps. Et c'est seulement à ce moment-là que ça fait de l'aide publique au développement. Mmh. Mais croyez-moi, la croissance, l'engagement, et vous le voyez dans les chiffres de notre agence, elle est engagée très nettement.
Oui, mais alors les chiffres, c'est aussi des prêts. Alors les prêts, oui, il faut les rembourser. Donc ce n'est pas forcément à destination de ceux qui en ont le plus besoin, qui, eux, ne peuvent pas faire des prêts.
Edouard
Philippe a réuni tout le gouvernement le 8 février dernier
sur une mission
pour mettre en œuvre l'engagement donc pris par le président de la République à de nombreux et annoncé à de nombreuses reprises, et on a tracé une trajectoire d'augmentation de l'aide publique jusqu'en 2022 qui va se traduire loi de finances après loi de finances. Il y aura 1 milliard d'euros.
Il faut attendre la loi de finances.
Il y aura 1 milliard d'euros de dons supplémentaires dans la loi de finances pour 2019 gérée par l'AFD, qui est une première marche. Et on va poursuivre. Bah,
elle n'est pas
les
votée encore. Pour l'instant, la part.
Et elle n'est pas votée encore. Je suis d'accord
votée,
avec vous.
Il faut attendre la loi de finances d'octobre. Hein.
Et donc, pour terminer sur votre point, on a effectivement à l'AFD 80% de prêts, 15% de dons, 5% voilà. d'investissement. Oui. On va transformer la structure de nos financements d'ici à 2022 pour être plutôt sur 3/4, 1/4.
Trois quarts
de prêts, 1/4 de dons, tout ça sur un volume beaucoup plus important. Donc ça veut dire des capacités en dons nettement accrues.
Les Allemands, les Britanniques sont beaucoup plus dans l'aide par les dons. Pourquoi on ne se met pas sur ce type de modèle? Qu'est-ce qui explique cette différence entre eux et nous?
Vous avez deux grands modèles, effectivement. Vous avez des pays qui ont fait un modèle entièrement en dons. Les Britanniques, les Américains, les pays du nord de l'Europe aussi, les Suédois. Et vous avez raison, les Britanniques ont... Il y a un grand débat à Londres en ce moment, j'y étais récemment, mais les Britanniques ont fait 0,7% de leur revenu national.
Comme l'Allemagne.
L'Allemagne, c'est différent. Vous avez d'autres pays, je pense au Japon, je pense à l'Allemagne, je pense à la France, qui ont la totalité des instruments, y compris les prêts. C'est pas mal un prêt, hein, vous savez, ça permet de faire des volumes.
Oui, mais les prêts, ça va dans les secteurs rentables, parce qu'il faut, les rembourser.
C'est des prêts, vous savez de
quoi. C'est ce que vous disent les ONG, d'ailleurs.
Vous savez de quoi on parle, hein. On parle de prêts à taux zéro, hein, pour les pays.
Pas seulement.
Et on parle de dons quand on peut pas faire de prêts. Mais... Et simplement, quand vous devez faire, effectivement, de l'eau, des infrastructures, vous allez pas tout financer avec des dons. Non. C'est pas possible. La lutte contre le changement climatique, elle se fera pas avec des dons. Il faut une composante de dons. Il faut répondre au monsieur aux gens qui nous interpellaient dans votre film. Mais il faut aussi se déployer dans l'ensemble des pays du monde.
Mais les prêts vont sur des secteurs rentables, Rémi Rioux. Ils vont pas forcément sur des choses qui pourraient changer le quotidien des gens que l'on entend.
Enfin, la Banque mondiale, elle fait des prêts depuis 1945.
Oui, mais alors,
jamais posé un problème à personne.
L'endettement.
Et on le fait dans le cadre, évidemment, des programmes du Fonds monétaire international pour stabiliser la situation macroéconomique des pays.
Précisément, Rémi Rioux, le FMI tire la sonnette d'alarme sur l'endettement qui fait que les pays ne s'en sortent pas. C'est le cercle vicieux.
Il faut faire deux choses en réponse à ça. Vous avez raison, il y a un certain nombre de gouvernements d'États qui sont redevenus dans des zones d'endettement où il faut faire attention, pas qu'en Afrique d'ailleurs, hein. Nous-mêmes d'ailleurs, nous avons une situation de dette qui est assez... il faut faire deux choses pour ça, il faut des dons, d'ailleurs, je suis d'accord avec vous, la décision qu'a pris le gouvernement, il faut des moyens en dons plus importants, et puis surtout, il faut pas passer toujours par les gouvernements. C'est-à-dire le paradoxe de l'Afrique, c'est que vous avez des gouvernements qui sont un peu trop endettés, parfois trop endettés, et des économies qui ne sont pas financées. D'ailleurs,
c'est
des entreprises qui ne trouvent pas de financement, la société civile, des collectivités locales. Donc il faut trouver des chemins financiers, et ça c'est l'histoire de l'AFD, pour les financer.
Rémi, vous parliez tout à l'heure de la force, l'impact, le poids de l'Europe dans la politique de l'aide au développement en général. Quelle est la part de ce que donne la France via l'Europe et elle-même toute seule en bilatéral?
Alors nous, pour vous donner un ordre de grandeur, on reçoit à peu près 1 milliard d'euros du budget de l'État français, nous AFD. On va en chercher 600 à Bruxelles. Donc, vous voyez, on est déjà un instrument qui est national, mais qui emporte aussi les priorités, la politique de développement européenne. La contribution de la France au Fonds européen de développement, c'est de l'ordre de 400 millions par an, sur une politique qui fait 3 milliards et demi de crédits budgétaires. Oui. Donc, c'est de cet ordre-là.
Donc,
on est à peu près 50% bilatéral en France, 50% multilatéral, désolé d'employer du jargon, l'européen, la Banque mondiale, le Fonds mondial SIDA, le Fonds vert pour le climat, vous voyez, c'est dans cette partie-là.
Donc, finalement, l'Europe reste encore assez minoritaire dans notre
Non, parce qu'il faut pas oublier que mon premier partenaire, c'est la Banque de développement allemande, qui s'appelle la KfW. Donc, on fait aussi plein de choses entre nous, sans nécessairement passer par Bruxelles. Et Bruxelles a bien compris ça, puisqu'en fait, il s'appuie sur nous, il nous donne l'argent nécessaire pour faire des projets ensemble, pour des montants supérieurs.
Alors, dans les pays...
Et n'oubliez pas que la politique de développement, c'est au cœur de l'Europe. Hein. C'était l'objectif de la CECA,
en 1950. C'est une des premières politiques publiques dans le traité de Rome en 1957. C'est notre histoire. On a toujours eu cette priorité. On a des élections européennes l'année prochaine. J'espère bien que ça sera dit avec force.
Alors, dans les pays qui devraient bénéficier de cette volonté de la France de faire progresser l'aide au développement, c'est le Sahel. Ça a été réaffirmé le 8 février dernier. Le Sahel, parce qu'il y a un des objectifs, c'est la stabilité internationale. Ça a été rappelé par rapport à l'aide au développement. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette aide au développement, elle sert, c'est plus un outil de politique étrangère et de sécurité plutôt qu'un outil à destination des pays.
Moi, j'aime pas cette distinction. Pour moi, la politique de développement, c'est un lien. C'est vraiment une politique du lien, de l'amitié, entre les peuples.
Mais là, c'est
bien sûr avec la France.
Mais il y a les questions du terrorisme et et les soucis aussi migratoires.
Ben, ce qu'ont compris je crois, ce qui est l'événement nouveau, et vous avez raison, on fait un gros effort. On a à la fois, à titre français, et puis dans le cadre d'une large alliance dont l'AFD assure la coordination, qui s'appelle l'Alliance Sahel, avec une douzaine de partenaires internationaux, pour mettre l'accent, pour mettre le projecteur beaucoup plus qu'on ne l'a fait sur le Sahel. On le fait dans l'intérêt des peuples du Sahel, et on le fait aussi parce que ce sont nos voisins et que les liens sont évidents, et qu'on avait oublié le Sahel, je crois, depuis un certain nombre d'années.
Mais Rémi Rioux, est-ce que c'est pas un piège, en fait? On se retrouve dans la situation de construire des écoles, lancer des projets, des puits, je ne sais quoi, etc., pour améliorer la vie des gens sur place. Mais pour éviter que les terroristes les détruisent ou les attaquent, on est obligé de mettre des soldats pour les protéger. Et à la fin, en fait, le projet, ça devient le truc des Blancs qui viennent nous faire la guerre. Et au bout du processus, c'est des histoires qu'on a vues en Afghanistan, ça fait 20 ans, 30 ans. C'est quoi? C'est l'aide au développement, la scolarisation des filles, etc. C'est ce que les Blancs veulent nous imposer pour pouvoir imposer nos soldats. Et donc, vous avez Boko Haram au Nigeria qui s'est construit quasiment sur le rejet d'une culture qu'ils ont présentée comme imposée. Elle ne l'est pas. Mais évidemment, quand vous avez des soldats et des instituteurs, les infrastructures deviennent le prétexte ou le motif des soldats dans l'esprit des populations.
C'est là que vous avez besoin de professionnels. Désolé, c'est là que vous avez besoin de professionnels du développement, c'est-à-dire des gens dont le métier n'est pas de s'imposer ou de faciliter l'acceptation des forces, mais dont le métier, et nous à l'AFD on fait ça depuis 77 ans, on est la plus vieille institution de développement du monde, c'est la France qui a cette institution, cette maison, et nous notre métier c'est de renforcer les partenaires locaux, on le fait depuis toujours.
Donc
on
passe toujours par un partenaire local. Est-ce qu'il n'y a pas de confusion dans vos interlocuteurs
locaux ? Et par ailleurs, dans le Sahel, je pense qu'on a eu un déséquilibre entre l'effort de sécurité, mais parce qu'il y avait urgence, souvenez-vous
de la situation initiale
et l'effort de développement. Donc il faut, c'est normal, on est dans un rééquilibrage, on est aussi dans une juste distance. Le métier de la sécurité n'est pas le métier du développement. Donc on travaille, moi j'aime pas le mot continuum, je dis contiguum, c'est-à-dire on travaille en même temps mais côte à côte pour passer progressivement.
L'efficacité de l'aide au développement, quand la France intervient au Mali avec Serval, ça fait des décennies qu'il y a une aide. Et je crois que c'est $1 milliard qui avait été investi dans ce pays, parce que vous dites qu'ils ont été mal ou peu servis dans les années précédentes, mais ils avaient été beaucoup servis. Et pour arriver à une situation catastrophique en termes sécuritaires et en termes de développement.
Bon, l'aide au développement, c'est dans les financements internationaux. Si on les compare maintenant fort heureusement aux ressources domestiques, des budgets des États, c'est quelque chose de minoritaire, de très minoritaire. Donc le sujet, moi je n'accepte pas les raisonnements où on dit on a fait tellement et on a obtenu si peu. Non, on n'a pas fait tellement. On a fait beaucoup de choses. Et par ailleurs, les pays...
Mais pour quelle efficacité,
c'est
ça la question.
Quels sont les critères pour intervenir dans un pays? Je voudrais prendre un exemple. Ouais. Par exemple, le Cambodge. Je crois que c'est un pays dans lequel vous avez déversé à peu près 300 millions de dollars.
Oui, déversé, ça c'est un mot.
Enfin, vous avez.
C'est un mot péjoratif.
Vous avez fourni ou.
On a financé. On a accompagné les projets des autorités cambodgiennes.
Voilà.
Pour 300 millions.
Dans un pays qui est en pleine dérive autocratique, comparé au Tchad, qui n'est pas non plus une grande démocratie, mais qui mais a bénéficié de bien moins.
On ne répond pas au monsieur qui nous parlait, et donc quand on a des situations politiques, on arrête de financer le développement. On arrête de porter secours, on arrête d'accueillir les projets qui, encore une fois, je vous l'ai dit, sont pour 50% des projets de l'AFD, ne sont pas des projets gouvernementaux. C'est les projets des collectivités locales, c'est les projets de la société civile, c'est les projets, on en parlera peut-être, du secteur privé, qui arrivent jusqu'à nous.
Et encore une fois, nous, on n'est pas dans... Vous réagissez sur le Cambodge en ce moment ?
On n'est pas dans une logique d'enveloppe. On n'est pas dans une logique... Bien sûr, on est à l'écoute des signaux politiques. Bien sûr, on est un instrument français, donc on est très proche du ministère des Affaires étrangères, qui nous oriente, qui est à notre conseil d'administration. Mais le développement, ce n'est pas exactement la même chose que la relation politique.
Voilà, oui,
on peut aussi poursuivre des efforts de développement qui arrivent directement aux populations. Et on essaye, bien sûr, on s'assure de ça, même quand la situation politique peut être complexe.
Donc en ce moment, sur le Cambodge, vous mettez un temps d'arrêt ou qu'est-ce qui se passe en ce moment ?
Écoutez, je n'ai pas le détail là, de nos interventions au Cambodge en 2018, mais je crois qu'on poursuit nos travaux au Cambodge, oui. Mais on ne fait pas forcément, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on ne le fait pas forcément de la même façon. On peut changer les circuits d'acheminement de l'aide pour aller directement vers les populations quand les circuits gouvernementaux, et je ne parle pas du Cambodge là, peuvent être remis en question. C'est ça la force d'une agence qui fait des prêts, qui fait des dons, qui a la totalité des instruments en son sein pour trouver ensuite le meilleur chemin d'acheminement.
Rémi Riou, je reviens au Sahel parce que la France y mène une guerre avec d'autres pays, les pays locaux notamment, contre ce terrorisme djihadiste. Est-ce que... on a l'expérience de l'Afghanistan. Alors, l'Afghanistan, ce n'est pas le Sahel, mais il y a des logiques concordantes. Ouais. Pays très sous-développés, où on a injecté beaucoup d'argent avec des acteurs locaux. Ouais. Et puis, quand on part, tout se rétrécit. Il n'en reste pas rien, mais tout se rétrécit. Les droits des femmes, les droits des journalistes, la société civile. Est-ce que vous avez regardé l'Afghanistan?
Ouais, bien sûr.
Et comment vous vous dites, comment vous faites pour... ne pas faire pareil. Quelles leçons vous avez tirées de ça ?
Je vous invite, on a une grande réunion le 13 juin, qui se tient au Quai d'Orsay, avec la Banque mondiale, avec les acteurs des pays en crise, autour du ministre. On va rendre public un rapport, justement, qui tire les leçons de ces territoires en guerre, où le lien social s'est déchiré, et où il est particulièrement difficile, bien sûr. Je veux pas être léger ici, de faire du développement. Nous, on va dans des endroits où personne ne va, donc... et on a appris notamment deux choses. C'est que par rapport à la façon dont on fait les projets classiquement dans un pays, dans ces territoires en crise, il faut aller plus lentement parfois. C'est-à-dire il faut vraiment prendre le temps de l'analyse, bien comprendre les enjeux politiques, les enjeux sociaux, bien connaître les partenaires. Donc parfois ça prend plus de temps, parfois il y a de l'impatience. D'ailleurs on voudrait que les projets de développement aillent plus vite. Et puis parfois il faut aller beaucoup plus vite aussi. Et ça c'est ce qu'on expérimente dans le Sahel, d'essayer d'avoir des projets notamment avec une composante rapide, tout en gardant la perspective de développement qui est celle que vous indiquez, c'est-à-dire de laisser une trace, de laisser un impact à moyen terme évidemment. C'est pour ça qu'on nous a...
Mais alors Rémi, je voudrais vous proposer un petit extrait d'un reportage qui a été diffusé sur Arte. C'est le business de l'aide au développement.
Ouais.
Regardez, ça questionne. Vous parliez tout à l'heure des fonds qui étaient délivrés à des initiatives privées. Mmh. On regarde.
Proparco, filiale de l'AFD, a investi dans un fonds avec d'autres banques de développement européennes. Ce fonds s'élève à 45 millions d'euros au total, dont 2 ont été attribués à European Foods Africa, une entreprise de Nairobi. L'entreprise kényane European Foods Africa commercialise des pizzas surgelées de la marque Dr. Oetker qu'elle importe d'Allemagne. Avec l'argent du fonds, l'entreprise s'est offert des chambres froides modernes. Son propriétaire est un Allemand qui vit à Nairobi. Stefan Belzer, c'est son nom, a eu l'idée il y a 6 ans de vendre des pizzas surgelées allemandes au Kenya. À Nairobi, de plus en plus de clients ont recours aux plats cuisinés. Mais seuls les clients de la classe supérieure peuvent s'offrir une pizza de cette marque.
La pizza surgelée est effectivement très chère ici par rapport à leur prix de vente en Allemagne. Elle coûte l'équivalent de 7,80 euros, alors qu'en Allemagne, c'est entre 2,50 euros et 3 euros, je crois.
Les 2 millions d'euros d'aide au développement ne financent donc pas la production locale, mais l'importation de produits européens.
Alors, c'est un exemple qui questionne, Rémi Rioux, sur...
Alors, c'est pas de... Je précise tout de suite, c'est pas de l'aide publique au développement.
Non, mais c'est l'AFD.
Ce que finance notre filiale... Donc, on a... Effectivement, on a le groupe AFD. Hein, vous avez la maison mère, qui fait plutôt le lien avec le public, avec les...
Et puis, vous avez
une filiale... On a une filiale secteur privé. Et puis, ce qui est très intéressant, on va accueillir l'année prochaine une autre entité qui s'appelle Expertise France, qui est la machine, un peu, qui fait de l'appui, de l'assistance technique.
Mais là, c'est Proparco.
Proparco, c'est du financement de marché.
C'est votre filiale.
C'est notre filiale. Absolument.
Et alors, quand elle investit, c'est un petit peu la confusion des genres.
Et
quand
ça me compte, ce que je veux dire, c'est que c'est des financements d'entreprises qui ne comptent pas, ou très très peu, en aide publique au développement. Donc, il ne faut pas le confondre avec ce
d'accord,
qu'on peut
faire. D'accord, mais c'est une émanation d'AFD. C'est quand même l'Agence française de développement qui va financer un.
Mais vous savez, la croissance africaine, depuis longtemps maintenant, elle est tirée par le marché africain. Par les consommateurs africains.
Mais c'est une entreprise
allemande. Par cette classe moyenne. Moi, je serai au Kenya. Je suis au Kenya dimanche prochain. Donc, au Kenya, il y a une classe moyenne. Il y a des gens qui consomment. Il y a des gens qui achètent des pizzas sur.
À qui on va vendre des pizzas trois fois plus chères que
nous, si je puis me permettre.
Que celles qui sont vendues en Allemagne.
Et donc, il faut qu'il y ait des entreprises alors qui créent, qui produisent, qui fassent vivre les marchés locaux, les agriculteurs locaux, et qui produisent en Afrique.
Moi, j'ai aucun souci avec ça. Donc, ça vous choque pas cet exemple? Vous pensez que ça fait partie de. C'est la façon dont on peut envisager l'aide au développement.
Il faut prendre des entrepreneurs africains, il faut les accompagner, évidemment.
Là, c'est un Allemand.
Quand c'est le groupe Agence française de développement, on y amène des exigences sociales, environnementales, pour prendre une entreprise à un certain niveau et la faire progresser.
Mais ce ne sont pas des Africains qui dirigent cette. C'est un Allemand.
Et combien d'Africains ont-ils embauché?
30.
Eh bien, ça a créé 30 emplois.
Rémi Rioux, en tant que patron de l'Agence française de développement, est-ce que vous estimez qu'il est dans votre rôle d'aider aux investissements privés? Et que dites-vous du fait que, en ce moment même, on est au plus bas depuis 10 ans en Afrique au niveau des investissements directs?
Vous voulez dire des investissements étrangers?
Oui.
Moi, l'Agence française de développement, je ne finance que des étrangers. Donc moi, je ne finance pas directement des entreprises françaises. Donc je finance des projets dans les 110 pays dans lesquels nous intervenons, parce que la moitié en Afrique, donc beaucoup en Afrique. Donc je finance toujours un étranger. Cet étranger, ça peut être un public, ça peut être un privé. Dès lors qu'il a un bon projet, qui satisfont nos critères d'investissement, et cet acteur étranger, il peut travailler avec un Français, un Allemand, quelqu'un qui a envie de prendre du risque d'investir au Kenya. Moi, j'ai aucun problème.
Justement, comment est-ce que vous expliquez le fait que de moins en moins de personnes, enfin en ce moment, ont envie de prendre du risque en Afrique, puisque c'est en recul, dit au plus bas de 10 ans, les investissements directs sur le continent?
Alors, je pense que il faudrait corriger ça de l'impact du cours des matières premières. Je pense qu'il y a beaucoup d'investissements, évidemment, en gros volume, qui ont été suspendus ou arrêtés depuis 5-6 ans parce que le cours des matières premières était très bas. Si on enlevait ça, vous verriez en revanche la partie des investissements qui s'adressent plutôt aux petites et moyennes entreprises, qui s'adressent au secteur où il y a le plus de création d'emplois. Et là, j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois pas qu'ils soient en baisse. Hein.
Mais
pas du tout.
Est-ce que c'est pas aussi que l'Afrique a eu du mal à développer ses infrastructures, tout ce qui peut permettre d'absorber des investissements locaux?
Et par ailleurs, je pense que le rôle de l'Agence française de développement, du groupe Agence française de développement, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est de parler d'Afrique en France et de montrer à un certain nombre d'acteurs français qui souhaitent y prendre du risque qu'il y a des marchés.
Alors justement, par rapport à ça, vous avez été le premier directeur général de l'AFD à vous rendre à l'université d'été du MEDEF, hein, le syndicat du patronat français. Vous pensez que les entreprises françaises ne soutiennent pas assez l'aide au développement? Pourquoi cette participation à cette université?
Je pense qu'on est à un moment très passionnant en France où de très nombreux acteurs, d'ailleurs qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, pardon, comme les entreprises, ou publics, hein, je le vois dans toutes les grandes institutions publiques que je fréquente, j'étais à l'INSERM récemment, les gens se disent on est en train de passer à côté de quelque chose d'énorme en fait. Et notre intérêt c'est de recréer ce lien, de le renforcer.
Et c'est quoi ce quelque chose d'énorme?
Avec l'Afrique.
C'est le fameux dividende démographique.
C'est ce continent, oui, d'un milliard. C'est l'Inde, hein. C'est ce continent. L'Afrique c'est l'Inde. C'est ce continent d'un milliard trois, de 2500 milliards de dollars de produits intérieurs bruts.
À côté d'une croissance. À côté d'une croissance, voilà.
Un immense marché. Voilà. Absolument. Et un marché par ailleurs, je pense que les gens dont on se rend compte, on était à Vivatech avec. avec le président Macron, le président Kagame. On avait un stand, nous, à l'AFD, il y a 2 semaines. On parlait d'Afrique partout.
Ah, oui, tous les... alors justement...
Donc, c'est aussi un continent où il y a des choses qui s'inventent. Donc si on n'y prend pas attention, si on ne s'en inspire pas, on fait une grosse erreur.
Vous dites qu'effectivement, vous avez dit à l'occasion du VivaTech que la révolution numérique est en train de transformer l'Afrique. Mmh. Moi, je voudrais...
C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président.
Je voudrais qu'on écoute...
au cœur de son discours. Hein,
je voudrais que l'on écoute et que l'on regarde ce petit intermède de Pascal Maître, hein, qui est un photographe que vous avez financé et qui parle, lui, de l'électricité. Il a fait une exposition qui s'appelait « Quand l'Afrique s'éclaira ». On l'écoute.
À partir de 19h, quand la nuit tombe, nous avons l'impression de rentrer dans une tombe. Ça touche l'éducation, c'est-à-dire les enfants ne peuvent pas étudier le soir, ou ils étudient avec des lampes à pétrole qui, elles, sont nocives pour la santé et qui créent énormément d'accidents domestiques de feu. La santé, soins se font à la lampe à pétrole, les accouchements. Ça touche la sécurité. Lorsque les gens vous parlent, il y a l'insécurité par rapport aux voleurs, mais aussi par rapport aux serpents. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Après, il y a l'aspect économique, évidemment, du développement. Vous ne pouvez pas installer les mini-entreprises qui ont des coupures de courant régulières, d'où beaucoup de gens migrent. Donc ça touche ces aspects-là aussi.
Alors, parler de révolution numérique en Afrique, quand on sait juste deux chiffres, hein, qu'un habitant sur quatre a accès à l'électricité en Afrique et que 7% en zone rurale,
C'est très étonnant le reportage que vous avez fait. On a donc Pascal Maître, qui est, vous savez, un très très grand photographe qui travaille en Afrique depuis des décennies. Il a été le lauréat de notre prix photographique. Et donc là, effectivement, l'exposition s'appelle Quand l'Afrique s'éclaira. Elle a deux parties. La première partie, c'est je termine.
Non,
c'est l'Afrique. C'est l'Afrique sans lumière.
Mais
c'est
nous, on parle d'un constat.
Laissez-moi finir. C'est toutes les photos que vous avez montrées qui sont magnifique, comme très souvent les photos
mais
d'Afrique.
Mais qui sont juste la réalité
non,
de
non,
ce
non,
pays.
Non, c'est précisément la deuxième partie de l'exposition.
Oui, c'était et vous aviez initiatives.
Vous aviez deux parties à la Maison européenne de la photographie. Oui. La deuxième partie, c'était les solutions.
Oui, c'est les
vous
les
aviez de l'hydroélectricité, vous avez du photovoltaïque. Mais c'est ça l'Afrique.
Mais les chiffres
c'est
sont
ça,
là.
L'Afrique.
Mais les chiffres sont là. 7% de la population en zone rurale a accès à l'électricité. Un quart dans l'Afrique.
Mais vous voyez la révolution énergétique qui est en cours en Afrique.
Farco est en train de financer, je crois, le
plus grand parc éolien. C'est une belle image de l'Afrique, triste,
mais réelle,
comme parfois aussi complet.
Factuel.
Mais ça n'est pas la vraie
mais
image.
Mais c'est
de
pas
et l'exposition précisément, et le travail de Pascal Maître, c'était de montrer les deux. C'était de montrer qu'il y a des femmes qui accouchent à la lampe à huile. Bien sûr,
mais
c'est ça.
C'est la réalité factuelle.
Mais c'est aussi la centrale de Zactouli que nous avons inaugurée avec le président, la plus grande centrale d'Afrique de l'Ouest, plus grande que toutes celles qu'on finance en France.
Vous êtes en train de financer avec Proparco donc le plus grand champ éolien de toute l'Afrique.
Ouais.
Avec quelles entreprises? Siemens, Bolloré.
Mais on fait des appels d'offres. C'est pas, d'ailleurs, pour être tout à fait clair, ça n'est pas l'AFD qui fait des appels d'offres. Nous finançons un porteur de projet africain. Ce porteur de projet africain fait un appel d'offres auquel répondent beaucoup d'entreprises locales, parce que certains lots ne sont pas accessibles aux entreprises internationales, et des entreprises internationales. Très bien, où est le problème?
Il y a encore beaucoup
il faut des gens qui investissent en Afrique.
Christophe.
Rémi Rioux, je voudrais revenir un peu, tout à l'heure vous disiez...
Vous voyez, c'est significatif quand même.
Vous disiez tout à l'heure, l'Afrique c'est l'Inde.
C'est pas ça l'Afrique.
C'est le
quotidien de l'Afrique.
C'est ça aussi, mais ça n'est pas que ça.
C'est le quotidien de la plupart.
Alors, l'Afrique c'est l'Inde en... population aujourd'hui.
J'aime bien cette
comparaison. En
population et en richesse.
D'accord. Donc 2050, l'Afrique devient le continent le plus peuplé de la planète.
Absolument.
C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est une nouvelle inquiétante ou pas? Parce que on a l'impression qu'il y a une ambivalence dans vos politiques. Super, il faut y être, il faut que le MEDEF y aille, etc. Mmh. C'est le relais de croissance. Et puis, il y a aussi un financement de projets qui vise à maintenir les populations sur place, voire qui vise à gérer les flux migratoires, parfois de la manière, notamment dans des pays comme le Soudan, en s'accoquinant avec des partenaires pas forcément extrêmement
Soudan,
mais... propre. Non, pas vous, mais l'Union européenne. Est-ce que
c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Un mot sur la démographie. C'est d'abord évidemment une excellente nouvelle. Il faut bien comprendre que le continent africain, dans son immensité, hein, c'est sept fois l'Europe, est un continent où la densité de population était incroyablement faible. Au début du XXe siècle, il y avait 300 millions d'Européens, il y avait 100 millions de personnes en Afrique, pour un territoire sept fois plus grand. Donc on part, et si des dynamiques de développement, des dynamiques économiques ne se sont pas enclenchées en Afrique, et l'Afrique rattrape maintenant, c'est en partie pour cette raison.
On parle de 450 000, un problème démographique.
Non, alors je vous parle du début du XXe siècle, excusez-moi. Depuis, je suis d'accord, il s'est passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est plutôt sur un rapport 500 millions de personnes en Afrique, 1,3 milliard en Afrique. Et donc, il est en train de se passer en Afrique, comme ça s'est passé en Inde, comme ça s'est passé dans les pays émergents, de la croissance qu'on appelle endogène, parce que les gens vont en ville, parce que les marchés se développent, parce que ça crée de la richesse, ça crée de l'emploi. Et c'est une excellente nouvelle. Après, l'enjeu, et c'est à ça que vous faites référence, c'est que ce rythme démographique est extrêmement rapide. Voilà. Comme aucune région du monde ne l'a jamais connu. Et en 2050, il y aura 2,5 milliards d'Africains.
Et on parle de 450 000 emplois à créer d'ici 2050.
Oui, c'est gigantesque. Aucune région du monde n'a réussi, n'a fait face à un tel défi. Mais ça ne veut pas dire que l'Afrique ne le relèvera pas.
Alors, pour le relever, c'est l'éducation. Est-ce que ça fait partie de vos priorités, j'imagine ?
Alors, c'est oui. Et c'est pour ça qu'on a besoin de plus de dons, d'ailleurs. Le président Macron a fait de l'éducation, un peu comme Jacques Chirac avait fait de la santé il y a 10 ans, sa priorité, parmi 5 qui ont été indiqués par le gouvernement. Donc oui, on va faire beaucoup pour l'éducation dans les prochaines années, à part tout moyen, hein, et en particulier avec des moyens en dons dans le Sahel, puisque il y a urgence dans cette région-là.
Mais vous soulignez ces taux de croissance de 7-8% que peuvent connaître certains pays d'Afrique. D'ailleurs, je crois que ce sont des pays d'Afrique qui connaissent...
N'oublions pas que l'Europe voit sa population baisser au même moment.
Oui, mais est-ce que certains économistes soulèvent que ce n'est pas parce qu'il y a une forte croissance que ça se traduit par une croissance d'emploi ? Donc on ne crée pas forcément des emplois en ayant une croissance très forte.
Non, bien sûr qu'il n'y a pas de dividendes. Disons qu'il y a une possibilité de croissance, comme le continent n'en a jamais connu. Maintenant, il faut que les gouvernements, d'abord, par leur politique publique, le secteur privé, par son investissement, et encore une fois, les agences internationales qui essayent d'aider, d'accompagner ces processus de développement se mobilisent. Hein. Et la mobilité africaine, elle a toujours été...
Quand vous voyez les chiffres du réchauffement, les chiffres des achats de terres, les chiffres de la démographie, est-ce que sur le Sahel, par exemple, vous n'êtes pas profondément inquiet ?
Mais il y aura des mouvements, bien sûr. Il y en a toujours eu, d'ailleurs, en Afrique de l'Ouest. Bien sûr que les gens bougent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Sahéliens, par exemple... Les mouvements de population, ils vont d'abord vers le sud. Vous le savez. Hein. On a une nouvelle stratégie à l'AFD. On appelait ça toute Afrique. C'est-à-dire, nous, on est la première maison de développement qui arrête de couper l'Afrique en deux. Donc nous, on n'a plus un directeur Afrique du Nord, un directeur Afrique subsaharienne.
Voilà, Maghreb et Afrique
subsaharienne. Parce que précisément, quand vous faites ça, déjà le Sahel n'existe plus puisque c'est la marge sud de l'Afrique du Nord, la marge nord de l'Afrique subsaharienne. Et surtout, vous ne comprenez pas les mouvements migratoires. Parce que vous avez l'impression que tous les gens veulent venir en France. Et vous savez très bien que ça n'est pas la réalité. Et que les gens qui sont effectivement frappés par une crise économique, climatique, sociale dans le Sahel, ils vont d'abord vers la côte. Donc ils vont vers le sud. Et donc là, nous, évidemment, on a un enjeu qui est comment est-ce qu'on raisonne, on agit dans une logique cette fois régionale pour aider, donner des choix aux gens et des choix qui sont dans l'intérêt des populations.
Alors, il nous reste quelques minutes. Puisque vous avez dit que par rapport aux accords de Paris, l'AFD s'engageait à soutenir des projets qui seraient 100% compatibles avec l'accord de Paris. Alors, les pays, notamment le Sahel, ce n'est pas eux qui émettent le plus de gaz à effet de serre.
Et,
voilà. Mais c'est eux qui en subissent bien souvent les conséquences, avec des inondations, des sécheresses ou autres. Est-ce que vous ne mettez pas la pression sur ces pays-là, alors que somme toute, Ce ne sont pas forcément eux qui sont les plus pollueurs de la planète.
Donc, on va avoir une nouvelle stratégie, effectivement, cet été. Il y aura plusieurs priorités, mais l'un des mots d'ordre, ça sera effectivement 100% accord de Paris. 100% accord de Paris, c'est deux choses. C'est on fait confiance à l'accord de Paris et on fait confiance au pays. Puisque
oui, mais pour pouvoir se développer vite, quand on parle des énergies fossiles, par
précisément,
exemple.
Précisément, la lettre de l'accord de Paris, c'est les pays vont déclarer des politiques, des trajectoires de développement qui seront compatibles avec l'objectif global du réchauffement à 1,5 ou 2 degrés, mais qui permettront le développement. Et donc nous, on va...
Mais à hauteur aussi rapide, parce que c'est ça la question.
Mais l'ambition ne sera pas la même pays par pays, selon le point de départ, là où vous êtes, et les enjeux pour le climat. Et n'oubliez pas que dans le climat, il y a l'atténuation, la réduction des émissions,
mais
il y a aussi l'adaptation. Et l'adaptation, ça veut dire agriculture, ça veut dire eau et assainissement, ça veut dire des dimensions essentielles du développement de ces pays.
Quand un pays fait appel à vous pour de l'aide, pour la réfection d'une centrale à charbon, par exemple, vous refusez le projet
On ne finance pas de centrale à charbon, jamais.
Donc, c'est dans nos politiques.
Voilà. Donc il y a quand même certaines interdictions, bien sûr, même si on s'appuie sur la politique du pays, mais on ne finance pas de centrale à charbon.
Mais du coup, est-ce que c'est praticable par ces pays, pour ces pays-là? Alors du coup, ils vont rester avec leurs centrales qui fuitent partout, avec un standard...
En revanche, on essaye de les accompagner, de leur amener des financements moins chers, pour favoriser la transition vers des énergies renouvelables. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Vous savez que le prix du photovoltaïque, par exemple, est en réduction incroyable.
Voilà, une dernière question, Rémy Rioux. On est loin de l'aide au développement, très proche du président Macron, Alexis Kohler, son bras droit, c'est le secrétaire général de l'Élysée, fait l'objet d'une enquête du parquet national financier pour soupçon de conflit d'intérêts. Il y a eu des perquisitions à Bercy. Le président Macron a réitéré son soutien indéfectible à son bras droit. Vous, vous le connaissez très bien, Alexis Kohler, parce que ça a été votre adjoint quand vous étiez directeur de cabinet de Pierre Moscovici.
Oui, je le connais très bien. Oui.
Alors, j'aimerais avoir un commentaire. Est-ce que une députée a parlé d'affaires d'État?
Bon, moi, je ne parlerai pas du cas du fond. Il y a une enquête en cours. Non, ce que je peux juste vous dire, effectivement, que ça fait 15 ans, moi, que je travaille avec Alexis Kohler. Il a été, effectivement, mon adjoint quand j'étais directeur de cabinet à Bercy. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est une personne d'une probité exemplaire et qui, comme moi, dans nos fonctions successives, a toujours été guidée par le sens de l'État. Enfin, on a fait ce choix public, ce choix de carrière, et nous n'avons jamais varié sur ce point.
Mais quand le parquet national financier décide d'investiguer, c'est une plainte d'une association, d'une ONG qui lutte contre la corruption, c'est que...
Non, mais quand on a une responsabilité publique, on a des comptes à rendre aussi. Donc, il faut s'expliquer et les enquêtes sont possibles. Mais voilà, je voulais juste dire ici la personne qu'il est. Et la confiance que je lui témoigne.
Vous êtes un proche, donc comment vous avez échangé avec lui sur cette affaire, pas sur le fond encore une fois, puisqu'elle est, mais sur comment il le vit, comment il le ressent, comment.
Non, pas de commentaire sur ce point. C'est à lui de répondre, bien sûr.
Il s'exprime peu. Rémy Rioux, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci d'avoir répondu à nos questions, à celles de Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad du journal Le Monde. Merci à vous tous, téléspectateurs et auditeurs, de nous avoir suivis. La semaine prochaine, International s'envole en République démocratique du Congo pour un nouvel grand entretien. On vous donne donc rendez-vous à Kinshasa dimanche prochain. D'ici là, belle semaine à vous tous.